RCF. Comment écrire pour bien restituer le passage du côté des animaux, pour bien reconstituer des individualités, des sociabilités, pour bien faire saisir et faire ressentir des expériences, des sensations, des vécus différents de nous autres humains. Tel est le sujet du dernier volume d'un cycle de 5 que publie sous la direction d'Éric Baratet les éditions Panthéon-Sorbonne et qui s'intitule « Écrire du côté des animaux ». Bonjour Éric Baratet.
Bonjour.
Seconde émission, je vais vous poser tout de go la question du titre d'abord, « Écrire du côté des animaux ». Alors, « Écrire du côté », qu'est-ce que l'on doit entendre par la locution « du côté » ?
Alors, l'idée qui se développe depuis 10-15 ans, c'est d'essayer de voir ce qui se passe du côté des animaux. Pas simplement lorsqu'on observe les animaux, voir comment ils se comportent tels qu'on peut les regarder, mais essayer aussi de penser quel est leur vécu, comment ils pensent les choses, comment quelles sont leurs émotions, etc., etc. Ce qui veut dire évidemment qu'on prête à ces animaux beaucoup plus de richesses qu'on ne faisait autrefois. Il y a encore 50 ans où on avait une vision très réduite des animaux, on se posait peu la question de leur point de vue, par exemple. D'ailleurs, beaucoup affirmaient sans aucune preuve que les animaux n'avaient pas de point de vue.
Ils n'avaient pas de point de vue, ils n'avaient pas d'émotion,
ils n'avaient pas d'émotion,
pas de sensation même si on les faisait souffrir. Et je pourrais mettre des points de suspension.
Exactement. Oui. L'idée, par exemple, qu'ils souffraient peu était tout à fait répandue, bien sûr. Et donc, avec cette vision-là très réduite, on ne se posait pas ce genre de questions. Mais si on essaye de passer du côté des animaux et voir vraiment ce qu'ils vivent, avec l'éthologie actuelle qui prête justement aux animaux de plus en plus de capacités, qui leur en accorde, on peut dire, qu'on veut bien des capacités qu'on veut enfin reconnaître, se pose la question de... On ne peut pas rester trop à l'extérieur de l'animal, il faut essayer de comprendre de l'intérieur. Un peu ce qu'on fait depuis très longtemps, les ethnologues, qui sont partis étudier d'autres populations hors Occident et qui ont essayé de se rapprocher le plus possible, par exemple, des Indiens d'Amazonie pour essayer de bien les comprendre de l'intérieur.
De l'intérieur, oui.
Alors évidemment, un Lévi-Strauss qui va en Amazonie et puis qui étudie les Indiens d'Amazonie, il reste un occidental, ça va de soi. Mais il faut quand même essayer de tendre. C'est pareil pour vis-à-vis des animaux. Nous restons évidemment des humains. On ne peut pas se transformer en chien, en cheval, etc. Mais on peut essayer de tendre vers l'animal. Une espèce on peut se forcer à tendre vers l'animal et passer de son côté. Et ça permet de comprendre et de voir plein de choses qu'on ne voyait pas auparavant. Et d'expliquer du côté humain, par exemple, plein de choses qu'on ne pouvait pas expliquer correctement. Je pense là, en deux minutes, les charges de cavalerie pendant la Première Guerre mondiale.
Que vous avez étudié les animaux pendant la Première Guerre mondiale.
Charges totalement suicidaires. Il y en a quelques-unes l'été 14, il y en a ensuite le reste de la guerre, par exemple en 18, lorsque la guerre de mouvement se remet en place, il y a quelques charges de cavalerie. C'est une hécatombe, parce qu'en face, quel que soit le camp qui charge, en face, vous avez des mitrailleuses. Bon, on peut se dire, mais enfin, pourquoi charge-t-on comme ça alors qu'on sait que c'est suicidaire? On n'a pas de réponse si on reste côté humain. Si on passe du côté du cheval, eh bien, on se rend compte, en fonction de sa psychologie, de son comportement, sa manière de voir le monde, c'est-à-dire son optique, eh bien, on se rend compte que pour qu'un cheval charge et continue de charger alors que ça tire dans tous les sens, que ça crie, qu'il sente le sang, les cadavres, etc., eh bien, il faut charger groupé. pour que l'animal soit entraîné, l'animal individu soit entraîné par le groupe. Les chevaux sont des animaux grégaires. Si on charge pas groupé, ben, chaque individu cheval va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce monde de fou? J'ai pas envie d'aller plus loin, je pars en arrière. Hein? Et donc, on est obligé de charger groupé à cause, si on pourrait dire, des chevaux. Ben, c'est une explication qu'on ne peut pas voir si on ne passe pas du côté des animaux. Donc, ce n'est pas simplement les animaux qu'on comprend mieux, c'est aussi les humains.
Oui.
Ce sont aussi les humains. Et donc, voilà, ça c'est le but scientifique.
Donc, une sorte de... Est-ce que je peux réutiliser le terme que j'ai trouvé dans l'essai? De décentrement.
Oui, c'est ça. Essayer de se décentrer, de passer du côté de, avec toutes les limites. Hein. On n'arrive jamais à devenir un chien, un cheval. Évidemment, nous ne sommes que des hommes, si on peut dire. Hein.
On est dans notre finitude.
Nous
quoi
sommes
qu'il
dans
en
notre
soit.
Finitude, avec toute notre richesse et toutes nos limites. Exactement comme pour les êtres, les autres espèces vivantes, les autres espèces animales en particulier. Et donc oui, c'est un effort de décentrement, mais comme je le disais, cet effort de décentrement, on l'a fait pour les autres populations humaines. Hein, on essaye de le faire, par exemple, les astronomes qui essayent d'étudier la vie hors Terre, bah, ils sont en train de chercher une définition beaucoup plus large de la vie que la définition humaine. Si on se dit, bah, il doit y avoir de la vie ailleurs, mais si on prend comme modèle la vie terrestre,
la condition humaine aussi.
Et la condition humaine et la Terre, etc., il y a de grandes chances qu'on n'en trouve pas d'autres.
Et qu'on passe à côté de quelque chose qui existe, mais que nous ne voyons pas.
Exactement, auquel on n'aura pas pensé, des formes de vie avec toute leur richesse auxquelles on ne pense pas parce qu'elles n'existent pas sur Terre. C'est cet effort de décentrement qui est finalement nécessaire dans les sciences. Hein, et que on ne voulait pas faire jusqu'à présent et qu'on fait pour maintenant, on essaye de faire pour les animaux.
Et vous dites également, mais d'autres chercheurs avec vous, qu'il est nécessaire de désanthropiser. Alors, on voit très bien là quel est un des axes sur lequel l'ouvrage celui-ci et les précédents reposent. Désanthropisé, il y a ce préfixe « dé » qui montre bien ce changement radical de perspective que l'on doit, si on s'intéresse non seulement au monde animal, mais peut-être aussi à l'homme, il faut adopter.
Bien sûr, on a, si on prend l'humain justement pour aller étudier les autres populations, nous avons désoccidentalisé par exemple, hein, essayer de sortir du modèle occidental en se disant il n'y a pas que l'humanité occidentale, il y en a d'autres et il faut aborder ces autres humanités dans toute leur richesse.
Et c'est cette analogie, me semble-t-il, qui est très intéressante, parce que dans la lecture de écrire du côté des animaux, on perçoit bien la difficulté que l'on peut éprouver sortir de ces schémas de pensée, mais aussi de langage dans lesquels nous sommes enfermés.
Exactement, et des manières d'écrire. Hein. Et effectivement, à partir du moment où vous voulez vous décentrer, eh bien, la question de l'écriture intervient obligatoirement. Hein. L'écriture n'est pas innocente, l'écriture c'est pas simplement un mode automatique de communication. On y fait passer plein de choses, et on y fait passer notamment notre manière de voir le monde. Alors ça nous paraît tellement évident. Lorsque j'ai écrit Le Point de vue animal, qui a été le premier livre où j'ai pris ce côté animal, j'ai réécrit, je réécrivais 10 fois les mêmes phrases, parce que très vite, je passais côté humain. Parce que c'est notre manière d'écrire. Hein, par exemple, le cheval est attaché, le cheval est emmené, etc. Si vous dites le cheval est attaché, celui qui fait l'action, c'est pas le cheval.
C'est pas le cheval, hein, oui. C'est, la forme c'est, passive
voilà,
montre bien.
Hein, c'est l'humain. Mais si vous voulez dire qu'est-ce que ressent le cheval dans cette affaire, alors là, je prenais d'autres expressions qui peuvent paraître lourdes, etc., mais qui sont là pour justement se décentrer. Je mettais par exemple « le cheval se sent ou se voit détaché ». hein, pour bien rester.
Vous passez de la forme passive à une forme pronominale.
Exactement,
finalement.
Exactement, pour bien rester du côté de l'animal. Alors évidemment, ça tord un peu le langage habituel, qui est un langage humain centré sur l'humain, mais ça apporte beaucoup de choses. D'abord, pour le lecteur, et ça, beaucoup de lecteurs me l'ont dit, ils se sentent vraiment du côté de l'animal. Hein. On parlait tout à l'heure des charges de cavalerie. J'avais une collègue célèbre, Michèle Perrault, hein, oui, qui est historienne des femmes, qui avait fait une émission sur un livre que j'avais fait sur la guerre de 14, et qui m'avait dit, mais en vous lisant, on a l'impression de cavaler, de courir avec les chevaux.
Avec ces animaux. Je pense au personnage aussi à qui vous avez consacré une partie de vos biographies animales, à Warrior, notamment.
Exactement. Ou alors au taureau Islero.
Au Islero, oui.
Les lecteurs se sentent beaucoup plus proches de l'animal et ça leur permet de voir beaucoup plus de choses. Et puis, c'est pas simplement un amusement d'écriture, hein. C'est aussi un outil scientifique. Parce qu'à partir du moment où vous voulez bien vous mettre du côté de l'animal et écrire du côté de l'animal, eh bien, il y a des questions qui vous viennent à l'esprit obligatoirement et auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et ça permet finalement d'enrichir encore le portrait que vous allez faire de tel ou tel animal. L'idée qui me vient en tête, là, c'est dans les biographies, le personnage de Modestine. Modestine,
oui,
c'est l'ânesse qu'emmène Stevenson dans son voyage à travers les Cévennes. Et en se mettant du côté de Modestine, à tel jour où ils marchent ensemble, je me rappelle, pour écrire telle phrase, je me disais, mais alors, si j'écris comme ça, il faudrait que je me demande de quel côté vient le vent, par exemple. Hein, elle était très chargée, très chargée. Stevenson nous dit qu'il y a une véritable tempête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour Modestine d'avoir une charge de 80 kilos sur elle, avec un vent de côté qui la pousse, hein. Stevenson voit bien qu'elle a du mal à aller tout droit, à les pousser sur le côté. Mais là, je me dis, bah oui, mais alors quel côté, hein. Et donc, par rapport à la physiologie de l'âne, par rapport à son éthologie, on multiplie comme ça d'autres questions et ça permet d'avoir un portrait ensuite beaucoup plus complet. Hein, donc c'est vraiment un outil aussi scientifique d'essayer d'écrire du côté des animaux.
Alors est-ce qu'on insisterait davantage quand on écrit du côté des animaux sur, je mets l'expression entre guillemets, sur le sentir, sur les sensations?
Oui, oui, oui. Eh ben, c'est un mode évidemment de rentrer, si je puis dire, en l'animal, hein, fictivement. Mais c'est l'aspect le plus facile. Hein. Quelles sont les sensations? Par exemple, Modestine, on sait que les ânes n'aiment pas être mouillés. Eh bien, lorsque Modestine, avec tout son chargement, se prend de véritables rafales, des orages, etc., ce qu'elle n'avait jamais connu, parce qu'auparavant, c'était l'âne d'un petit colporteur qui allait de ferme en ferme toutes les 2 kilomètres. Et puis ce colporteur, il était connu pour bien boire le coup. Donc quand on arrivait à une ferme, on restait pas que 5 minutes, hein, on papotait. Modestine avait le temps de s'arrêter, de se reposer, de se mettre à l'abri, etc. Là, elle se retrouve avec un Anglais sans doute fou pour elle, qui marche
tout le temps,
sur
oui,
des dizaines de kilomètres, oui, à toute allure, et qu'il pleuve, qu'il vente, etc., on marche quand même. Hein, donc, le ressenti, évidemment, pour elle, qu'est-ce que ça a pu être? Donc, en croisant ce qu'on trouve comme fait de son côté avec l'éthologie des ânes, etc., on arrive à trouver des choses. Hein. Par exemple, le fait que c'est un âne qui n'avait l'habitude que de tirer des charrettes et qui se retrouve avec un paquetage sur le dos et à marcher vite, etc., ça entraînait un stress extrêmement fort. Et si on se dit que, ah oui, elle a dû stresser, eh bien après, on voit des choses que Stevenson nous raconte. Il nous les raconte, mais sans vraiment trop s'apercevoir ce qui se passe du côté de son âne. Mais il les raconte. Et on se dit, bah oui, c'est évident, c'est une marque
un
de
peu comme dans un
stress.
Roman, on pourrait adopter un point de vue externe.
Exactement.
Et c'est toute la question, comment écrire puisqu'on n'accédera pas, me semble-t-il, mais peut-être me trompais-je, au point de vue interne, c'est-à-dire à ce flux intérieur qu'il doit y avoir chez l'âne Modestine, ou encore, vous en avez tellement bien parlé, le taureau Islero qu'on précipite dans l'arène pour être tué dans les cris, les hurlements face à Manolete.
Oui, alors justement, cet exemple est très bien, puisque dans ce livre, c'est l'exemple, l'animal pour lequel j'ai essayé de plus tordre l'écriture. Tordre dans le sens à sortir de l'écriture conventionnelle pour être vraiment du côté des taureaux. Et ça a marché. Le nombre de lecteurs qui m'ont dit « je me suis senti taureau », c'est étonnant, alors que j'emploie des mots humains, français, c'est du français, etc. Alors évidemment, je prétends pas devenir taureau, mais l'écriture est là pour tendre vers l'animal et puis aussi pour déranger l'humain. Hein, c'est-à-dire, en n'écrivant pas comme on écrit habituellement, en écrivant, ça reste très lisible, hein, je ne veux pas affoler les lecteurs, ça reste très lisible, mais en écrivant d'une manière différente, eh bien le lecteur est dépaysé, hein, et il a tendance à se porter du côté de l'animal. C'est un outil aussi. L'écriture est là pour forcer le lecteur à se décentrer. Hein, pas simplement parce qu'on le contenu de ce qu'on lui raconte, mais aussi parce qu'il la manière dont on le raconte. Et ça, c'est un point important. Et alors, c'est pas du tout mon invention. Il y a des écrivains qui vont penser à ça. Il suffit de penser à Virginia Woolf.
Oui, justement.
Qui écrit
parallèle me paraît très intéressant.
Oui, bien sûr. Elle a écrit une petite biographie d'un chien. C'est une biographie tout à fait remarquable. Eh bien, il y a des moments, elle a des pages absolument remarquables. Par exemple, elle décrit la promenade de sa maîtresse et de ce chien. Je ne sais plus, là, je suis en train d'oublier si c'est Rome ou Florence. Elle décrit pas cette promenade comme pourrait le décrire un humain, elle la décrit à l'échelle du chien. Et donc, elle décrit les senteurs, les odeurs, les passages. Elle se met à la hauteur du chien,
même,
au niveau du chien. Et ça donne une promenade totalement différente de ce que nous aurions l'habitude d'écrire et de lire et de dire. Hein, c'est de la même manière, elle décrit le voyage en train de ce chien. Il est dans une cage, dans le wagon de la soute, finalement. Et elle décrit ce voyage sous la forme d'éclairs de lumière, de bruit, etc., etc. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement bien fait. Et on se sent, littéralement, on est emporté. N'est pas Virginia Woolf qui veut, évidemment, mais on se sent vraiment emporté dans ces pages. On a l'impression d'être du côté de l'animal et de découvrir encore plus du côté de cet animal. Finalement, de se dire, ah bah oui, oui, il ressent les choses comme ça.
Quelques notes. Ce n'est pas un chien. Ce n'est pas non plus un chat. Les écrivains ont aimé, les musiciens aussi ont aimé ce langage. Messiaen, qui aimait particulièrement les oiseaux.
Thank you. Dialogue. Montserrat Vidal.
Éric Maratet, nous entendions le langage, la musique des oiseaux que l'on a essayé à beaucoup de titres, essayer de déchiffrer, de comprendre, de rendre. Ici, c'était Olivier Messiaen. Mais comment est-ce que vous, en tant qu'historien, vous voyez cette possibilité d'accéder à un sens, à une interprétation de ce langage, non pas simplement à une reproduction, mais à une interprétation?
Ben écoutez, ça a été fait un tout petit peu. J'ai un collègue éthologue, spécialiste des oiseaux, Michel Kreutzer,
qui vous lui rendez hommage, hein,
oui,
d'ailleurs.
Oui, tout à fait. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et surtout très ouvert, et qui est allé voir l'un des rares éthologues qui a travaillé sur des textes anciens, des textes historiques. Notamment, il a travaillé sur les manuels du XVIIe et XVIIIe siècle qui racontaient comment éduquer les oiseaux à chanter. Et il s'est aperçu qu'il y avait quantité d'informations et qu'il pouvait interpréter, lui, avec sa connaissance actuelle, mais que ça allait dans les deux sens. C'est-à-dire que les gens de cette époque-là savaient des choses que nous ne savons plus, ou que nous avons eu du mal à trouver, hein, notamment à un moment, c'est pas dans ce volume, je crois, mais dans un autre, il écrit, mais finalement, si les éthologues avaient lu les auteurs de ces manuels d'oisellerie, bah, y a tel ou tel débat qui n'aurait pas duré longtemps, on les aurait résolus. Ces gens-là avaient la solution, alors que nous, on a débattu pendant 10 ans. Hein. Et avec ces documents, lui, il a pu aller voir ce qui se passait, par exemple, pour tel ou tel oiseau qu'on forçait à chanter avec des méthodes qui pouvaient être plus ou moins
coercitives,
hein, c'est-à-dire, par exemple, crever les yeux ou mettre dans le noir complet, etc. Alors, les gens de l'époque voyait bien que ça permettait à cet oiseau de mieux comprendre, de mieux chanter. Ils l'avaient deviné, ils avaient adapté ces pratiques. Maintenant, on peut dire pourquoi. C'est parce que ça modifie à l'intérieur du cerveau les circuits, etc., etc. Il y a des substances qui sont développées, donc qui font mieux marcher de tel côté le cerveau ou de tel côté. Donc maintenant, on sait biologiquement l'expliquer. Et donc, lui, il a maintenant les capacités d'entrer, de comprendre. Alors, c'est quand même limité pour les animaux du passé, parce qu'on est dépendant des documents. Mais pour les animaux actuels, ça devient de plus en plus, je ne dirais pas simple, mais ça devient de plus en plus...
Les neurosciences nous permettent peut-être de mieux accéder à un savoir qui autrefois était plus pragmatique.
Bien sûr, oui, tout à fait. Et puis maintenant, on arrive à montrer comment ça marche dans le cerveau.
Oui. Hein,
c'est ça, comment ça fonctionne. Et par exemple, il y a eu une célèbre expérience il y a quelques années, des éthologues hongrois spécialistes des chiens. L'éthologie hongroise est une éthologie extrêmement performante. Ils ont fait passer un chien dans un IRM. Ils l'ont appris à se tenir immobile, malgré le bruit, etc. Et puis, ils lui parlaient et ils enregistraient le fonctionnement du cerveau. Ils se sont aperçus, évidemment, c'était l'évidence, mais ils l'ont prouvé, bah, par exemple, que ce cerveau fonctionnait, les zones fonctionnaient différemment selon qu'on lui parlait gentiment ou on lui parlait désagréablement. Hein, et donc, ils ont vu le cerveau à l'œuvre, dans toute sa richesse. Et maintenant, on commence à travailler sur des machines qui pourront essayer de... Alors, dans un futur, est-ce qu'on y arrivera et quand, je ne sais pas. Mais l'idée d'essayer de décrypter les sensations, décrypter ce genre de choses, est tout à fait...
L'intelligence artificielle, est-ce que vous pensez qu'elle sera un atout, justement,
sans doute,
pour accéder à l'écriture et la lecture, bien sûr, de cet autre monde parallèle avec lequel nous nous croisons, que nous rencontrons?
Sans doute. Alors là, les éthologues seraient beaucoup mieux armés que moi pour le dire, mais je pense qu'effectivement, ça sera un moyen. Donc, je crois qu'il ne faut pas désespérer de cette recherche Alors, comme on le disait tout à l'heure, nous ne serons jamais des chiens, etc. Mais je pense tout de même que lorsqu'on veut, on peut. Hein. C'est l'une des capacités de l'homme. Lorsqu'il veut, il peut. Et je suis assez optimiste là-dessus pour qu'il me semble que si on veut bien continuer dans cette voie, on en saura plus. Et donc, ça pourra donner aussi une capacité de communiquer avec ces animaux.
Avec ces animaux. Et vous parlez également, vous et d'autres auteurs de ces interventions, vous parlez d'un langage nouveau, finalement, d'écrire un langage nouveau à partir de cette observation libéré des préjugés du monde animal.
Oui, effectivement. Oui. Alors, il faut qu'on l'apprenne, ce langage, parce que ça n'est pas un langage facile, ça n'est pas un langage habituel. On revient très vite à un langage, je dirais, centré sur l'humain. Hein. C'est ce que je disais avec le cheval est attaché et non pas le cheval se sent attaché. Donc, il faut l'inventer, il faut trouver des formules, des phrases, employer des mots qui conviennent mieux que d'autres, voire inventer des mots éventuellement. Pour les chats, j'avais essayé d'inventer un peu des mots, dire le palpinariné, par exemple.
Oui, hein, au palpinariné. Lieu
de, palpinariné ou palpaté, il sent avec ses pattes. Et c'est alors des mots simples que l'on comprend tout de suite, mais qui permettent un peu de décentrer le lecteur, qui finalement, quand on dit palpinariné, eh bien le lecteur, il voit le chat. Hein, on voit bien ce que fait le chat, ou palpater, on voit bien le chat avancer sa patte et toucher avec ses coussinets, vite les enlever sa patte si jamais ça mouille, c'est de l'eau, etc., etc. Ça permet de faire vivre l'animal et donc d'être beaucoup plus proche de l'animal et de mieux le comprendre.
Mieux le comprendre, mieux le respecter peut-être aussi.
Tout à fait.
Mieux en rendre compte avec les limites, bien sûr, de notre langage humain. C'est ce que vous avez fait, Éric Baratet, avec ces autres chercheurs qui ont contribué à cette somme de 5 volumes, je le répète, et dont le dernier volume s'intitule donc « Écrire du côté des animaux ». C'est passionnant, c'est à la fois savant, mais je dis aussi accessible. Et je recommande très très vivement la lecture de cet essai aux multiples contributions publié aux éditions Panthéon-Sorbonne. Et je vous remercie, Éric Baratet, pour cette approche passionnante.
C'est moi qui vous remercie.